les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un loup qui s'est fourvoyé par mes gardes. La difficulté fut d'attacher le grelot. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille, elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf. Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Un lièvre en son gîte songeait, car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe. Vous aurez deviné vers quelle hauteur nous entraîne l'émission proposée par la compagnie Renaud Barreau, Le Rideau se lève. Émission diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 19 décembre 1948.
Georges Beau me présente la compagnie Madeleine Renaud, Jean-Louis Barreau. Ce soir, le rideau de la compagnie Madeleine Renaud, Jean-Louis Barreau, se lève sur Jean de La Fontaine. Cette émission vous sera donnée avec le concours de Madeleine Renaud, Simone Valère, André Bruneau, Jean-Louis Barreau, Jean de Sailly et Jean-Pierre Grandval. Réalisation Henri Vermeil.
Tout d'abord, nous voudrions, Madeleine et moi, remercier les auditeurs qui ont eu la gentillesse de nous écrire, soit pour nous faire des suggestions, soit pour nous honorer de leur amitié. Nous sommes heureux, en effet, que ce soit par l'humain et non par l'acteur que s'établisse notre contact. Et nous voulons dire maintenant « chers amis » au lieu de « chers auditeurs ». Bien, chers amis, puisque notre intrusion de l'autre jour, par le truchement de votre poste, a été si gentiment accueillie, nous nous promettons de la renouveler un jour prochain. Et j'ai quelques projets précis à ce sujet que je vous soumettrai bientôt. Mais aujourd'hui, je vous propose que cette émission soit dédiée justement à l'amitié.
Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime.
Oui, entendu. Mais chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose.
Les quelques vers que Jean de Sailly et André Bruneau viennent de vous dire, vous les avez reconnus, sont d'un autre grand ami à nous, Jean de La Fontaine. La Fontaine qui nous accompagne toujours et qui est toujours là pour nous soutenir, est une sorte d'oncle idéal. Ses conseils sont agréables, ses leçons toujours ravissantes, que de vers précis et pleins voltigent dans notre tête, ou nous reviennent en mémoire à tout instant de l'existence. Il en est un qui, pour moi, est une véritable devise. Le voici. On le peut, je l'essaie, un plus savant le fasse. Et ces deux vers, lorsqu'on pense au public,
le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant.
Et c'est d'aussi lorsqu'on pense aux acteurs.
Vous êtes dans une carrière où l'on ne se pardonne rien.
La Fontaine, pour des gens de théâtre et de théâtre libre, c'est avant tout, je crois, la cigale et la fourmi et le loup et le chien. Madeleine, veux-tu nous dire la cigale et la fourmi?
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêts et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous autant chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.
Voici une autre fable qui n'a pas de moralité, ou plutôt dont la moralité nous paraît évidente. C'est le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, hères et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin.
Le loup reprit, que me faudra-t-il faire?
Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiants. Flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, hôte de poulet, hôte de pigeon, sans parler de maintes caresses.
Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé.
Qu'est-ce là, lui dit-il?
Rien.
Quoi rien? Peu de choses. Mais encore,
le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause.
Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez?
Pas toujours, mais qu'importe.
Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore.
Je crois en effet que cette fable peut être particulièrement sensible à tous ceux qui ont choisi la liberté. Chez nous, dans notre compagnie, le moins d'administration possible. Nous avons rejeté le tapis vert. Tout notre effort est pour ce qui se fait sur scène et non au conseil d'administration. Oh, cher André Bruno, vous qui êtes notre doyen et qui avez quelques souvenirs d'administration,
oui.
Dites-nous donc le conseil tenu par les rats.
Voilà. Un chat nommé Rodilargus faisait de rats telles des confitures que l'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Hérodilard passait chez la gente misérable non pour un chat, mais pour un gars. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme. Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un grum au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen, chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit, je n'y vais point, je ne suis pas si sot. L'autre, je le saurais. Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai maint chapitre vu qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Ne faut-il que délibérer? La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne.
Si La Fontaine devait donner des conseils aux jeunes acteurs, il me semble qu'il dirait soit la fable intitulée « Rien de trop », c'est une fable assez peu connue, ou bien la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Eh bien, Jean-Pierre Grandval, dis-nous la grenouille.
Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et sangle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant, « Regardez bien, ma sœur !» Est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore?
Nenni,
m'y voici donc,
Point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point.
La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages.
Combien de fois avons-nous eu des emballements, soit sur un manuscrit ou soit à propos d'une interprétation, et qui après coup nous faisaient penser amèrement à la fable « Le chameau et les bâtons flottants ». Monsieur Bruno, voulez-vous nous dire « Le chameau et les bâtons flottants » ?
Le premier qui vit en chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second s'approcha. Le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise à notre vue quand se vient de la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, et puis nacelle, et puis ballot. Enfin, bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien.
Et quel art dans la description! Comme en quelques mots, il dit tout. Tenez, par exemple, voici quelques vers pris au hasard.
Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq adroit et matois.
Un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soies.
L'aigle avec ses petits au haut d'un arbre creux.
L'allée au pied.
La chatte entre les deux.
Un lièvre en son gîte songeait.
Ah, et quelle fable pourrions-nous choisir pour décrire notre état d'esprit la veille d'une première représentation d'un nouveau spectacle, c'est-à-dire la veille d'une générale?
Mais voyons, Jean-Louis, la fable des châteaux en Espagne. Simone, viens nous dire la laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un cent d'œufs, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc, à s'engraisser, coûtera peu de son. Il était cangelu de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre dans les tables, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus sont aussi transportées. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame de ces lieux qui tend d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battue. Le récit en farce fut fait. On l'appela le pot au lait.
Oui, eh bien moi, au lendemain de la générale, je vous propose le meunier, son fils et l'âne, qui prétend contenter tout le monde et son père.
De Sailly, dis-nous le meunier et son fils et l'âne.
J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçon de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre. Le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là? Le plus âme des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint dans son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit, et d'aventure passe trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux, au garçon, s'écria tant qu'il put.
Oh là, oh, descendez, que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait laquais à barbe grise. C'était à vous de suivre, au vieillard de monter.
Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand, trois filles passant, l'une dit,
c'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage.
Il n'est, dit le meunier, plus de veaux à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. Après main colibet, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. L'un dit, ce gens sont fous, le beau de n'en peut plus, il mourra sous leur coup.
Et quoi, charger ainsi cette pauvre bourrique? N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau.
Parbieu, dit le meunier, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit,
est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire en chasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête et la chanson le dit. Beau trio de Baudet!
Le meunier repartit, je suis âne. Il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, je veux faire à ma tête. Il le fit et fit bien.
Oui, mais voilà, notre émission va se terminer. Et moi, j'aimerais tant vous dire une fable que j'aime, qui n'a peut-être aucun rapport avec, en effet, le métier d'acteur. Mais enfin, je l'aime, elle est jolie, c'est la jeune veuve. La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit, et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens et l'autre a mille attraits. Au soupir, vrais ou faux, celle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable. On le dit, mais il n'en est rien. Comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait, attends-moi, je te suis, et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père. Homme prudent et sage, il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, ma fille, lui dit-il, s'est trop versée de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes, puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure, une condition meilleure changeant des noces ses transports. Mais après certains temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune, et tout autre chose que le défunt. Oh, dit-elle aussitôt, un cloître est l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois, de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil enfin sert de parure en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient au colombier. Les jeux, les rires, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri. Mais comme il ne parlait de rien à notre belle, où donc est le jeune mari que vous m'avez promis, dit-elle.
Le rideau de la compagnie Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, vient de se baisser sur Jean de La Fontaine. Cette émission de Georges Baume vous a été donnée avec le concours de Madeleine Renaud, Simone Valère, André Bruno, Jean-Louis Barrault, Jean de Sailly et Jean-Pierre Grandval. C'est une réalisation Henri Vermeil.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 19 décembre 1948. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.